Si un jour vous vous demandez quelle est l'une des femmes au monde qui incarne au mieux une vie romanesque, de sa naissance à son dernier soupir, pensez à la princesse Gayatri Devi, surnommée Ayesha, un prénom musulman qui signifie « celle qui doit être obéie ». Née le 23 mai 1919 à Londres, petite fille, sœur et épouse de Maharaja du côté de son père et du côté de sa mère, ses ancêtres étaient des guerriers. Son grand-père maternel, qu'elle aimait et admirait, fut l'un des princes indiens les plus puissants du pays. Un véritable héros qui ne courba pas les chines devant les Anglais et fit notamment beaucoup pour la condition des femmes en Inde. Rappelons qu'à cette époque-là, les Maharajas vivaient sous la domination britannique et n'avaient guère de pouvoir. Rien n'était trop beau pour donner l'illusion de leur puissance et jamais on ne vit, durant toutes ces années, fêtes aussi somptueuses, pareilles excentricités. Mais revenons à Ayesha. Sa mère, Indira de Baroda, fut une femme libre. Elle se maria contre l'avis de ses parents et eut 5 enfants qu'elle éleva comme elle le souhaitait, avec une grande détermination et beaucoup d'imagination. Ayesha, 4e de la fratrie, avait de qui tenir. Elle était intelligente, vive, curieuse et déterminée. Tout au long de sa vie, Gayatri Devi mena des combats qu'elle remporta. Elle fut à sa manière une guerrière inflexible qui trouvait toujours les ressources nécessaires pour se battre et aller de l'avant. Car il en fallait du courage pour aller contre les lois indiennes du Purdah qui cloîtraient les femmes chez elles, pour créer, à 24 ans seulement, la première école pour filles au Rajasthan en 1943. Et aussi pour s'opposer ouvertement, plus tard, à Nehru puis à Indira Gandhi quand elle entreprit de faire une brillante carrière en politique. Elle fut l'amie des Kennedy, de la reine Elisabeth et du prince Philippe, fit la connaissance de Truman Capote, de Leonard Bernstein et de bien d'autres encore. Elle connut des drames, mais jamais ne flancha. Enfin, elle était considérée comme l'une des 10 plus belles femmes au monde. Jean-Noël Liot, biographe reconnu, avait le talent qu'il faut pour s'attaquer au destin hors norme de Gayatri Devi. Le livre s'appelle « La princesse insoumise » et il est publié aux éditions Guillaume Allary. Bonjour Jean-Noël Liot et bienvenue à Secrets d'écriture.
Bonjour Cécile et merci pour cette présentation merveilleuse. Je suis très touché d'être là.
Parlez-nous des coulisses de ce livre.
Alors, c'est vrai que les coulisses sont très importantes. C'est un sujet qui m'obsède depuis l'adolescence. J'étais un adolescent indianisé. J'étais un peu la mascotte d'un groupe d'indiennes à Paris. Et ces femmes qui m'emmenaient partout, voir au théâtre, voir des ballets, avaient compris mon goût des femmes intenses. Et donc, elles m'ont fait découvrir Gayatri Devi, Ayesha. Et dès lors, la graine a été plantée et je n'ai cessé de tout lire, d'explorer. Je suis allé sur ses traces en Inde, j'ai retrouvé tous ses proches à la fois en Inde et en Angleterre. Et c'était un travail d'amour. Il se trouve qu'en 2007, j'ai failli la rencontrer. Elle vivait encore, j'étais en Inde et finalement, c'était trop compliqué. Elle était fragile et une amie m'avait proposé d'écrire une lettre d'introduction, mais ça ne s'est pas fait. Je porte ce regret en moi. Je pense qu'écrire ce livre a été comme le fait de pouvoir me réconcilier avec ce regret.
Pouvez-vous nous parler, pour commencer, de l'Inde des années 1920, celle qui vit naître Ayesha ?
Alors, c'est une Inde très tumultueuse et c'est un moment de transition. C'est-à-dire que le Mahatma Gandhi et Nehru émergent. Et l'Inde va devenir indépendante. L'Inde sera indépendante en août 1947. Et Ayesha va grandir avec pour mentor le Mahatma Gandhi. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle était enfant, on l'appelait la princesse folle, parce qu'on aurait pu croire que tout le luxe que vous avez mentionné aurait pu anesthésier en elle la conscience sociale, l'empathie. C'était le contraire, en fait. Elle n'a cessé, dès l'enfance, de vouloir trouver des solutions pour les gens qui souffraient. Et elle a été modelée par cet idéal de paix et de compassion du Mahatma Gandhi, qui s'intéressait aux opprimés, aux intouchables. Tout ça l'a beaucoup frappée. Et donc, elle va grandir. Alors, c'est une ambivalence, naturellement, parce que le Mahatma a toujours dit: quand l'Inde sera indépendante, les Maharajas n'auront plus aucun privilège. Ils perdront leur titre, ils perdront leur fortune. Et pourtant, Ayesha et ses proches, tous les souverains indiens, préféraient voir partir l'occupant britannique à tout prix. Ils étaient absolument, ce qui était un autre paradoxe, parce qu'elle était très anglophile, mais ils attendaient vraiment avec impatience le départ des colons britanniques. Et donc, c'est dans cette Inde-là qu'elle grandit, qui est une Inde passionnante.
Elle grandit vraiment dans le luxe, on est d'accord.
Elle grandit
avec
dans
ça.
Le luxe, exactement.
Mais pas seulement, sa mère lui donne quand même une éducation...
La mère est fascinante. C'est-à-dire le palais de son père, le palais de Kuch Behar, qui est au pied de l'Himalaya. Et une chanson populaire disait, c'est la demeure des dieux sur terre. et ses grands-parents Baroda à l'autre bout du pays, dans le Gujarat aussi. Enfin, c'était les descriptions, les petits animaux de compagnie sont des perroquets qui ont des bicyclettes en argent, qui sont. On ne peut pas imaginer. Elle avait ses éléphants, elle avait un éléphant qui portait son prénom d'ailleurs. Donc c'est vrai que cette enfance indienne est très luxueuse. Il y a aussi le cosmopolitisme. La mère veut faire de ses filles des femmes émancipées. Donc elles sont élevées aussi en Suisse, en Angleterre. Ayesha parle couramment le français, l'anglais et le bengali. Elle ne parle pas hindi par contre. Et il y a aussi une étape très importante, c'est qu'elle va être scolarisée à Santiniketan, dans l'école créée par Tagore, le grand poète bengali et prix Nobel de littérature. Et cet homme est déjà âgé, il est septuagénaire, elle a 16 ans, et elle va tisser un lien très profond avec lui. Elle va lui parler, ils ont des conversations très suivies, et il va être un mentor pour la vie. L'influence de Tagore sur elle sera déterminante. Donc il est vrai qu'elle a une enfance extraordinaire. Et puis alors la mère a des méthodes pédagogiques qui font rêver. Par exemple, tous les dimanches, ils prenaient un petit avion, on survole l'Himalaya. Donc la mère, les cinq enfants, les enfants ont le visage comme ça collé derrière le hublot, et elle leur explique l'histoire, la géographie, le nom des sommets, des temples, le Mahabharata, l'histoire des dieux. C'était sa manière à elle, voilà, de leur donner des leçons d'histoire et de géographie. Donc tout ça, naturellement, fait rêver, et on parle des années 20, des années 30, enfin c'est hier, disons, sur l'échelle du temps. Voilà l'enfance et l'adolescence d'Ayesha.
Alors, incroyable aussi, Ayesha, je rappelle que c'est le surnom de la princesse, tombe amoureuse de son futur mari, le Maharaja de Jaipur, alors qu'elle n'a que 12 ans. Elle finira par se marier avec lui, au grand désespoir de sa mère et de sa grand-mère. On pourrait penser qu'elle fait là un mariage prestigieux, qui réjouira sa famille, mais c'est bien plus compliqué que cela.
C'est plus compliqué parce que d'abord, il faut dire que le Maharaja de Jaipur avait été l'amant de sa mère. Et elle l'ignorait. Et en plus, le Maharaja de Jaipur avait déjà deux épouses avec des enfants, et elle allait être la troisième épouse. Donc, cette jeune femme, si cosmopolite, si européanisée, qui devait être une femme affranchie, accepte par amour, tous ses proches m'ont dit que pour eux, c'était une. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce choix, de se marier. Donc, la famille a essayé de la freiner, ça ne marche pas. Vous savez, dès que des jeunes gens sont amoureux, dès qu'on leur dit non, ils ont encore plus envie de se marier. Et donc, finalement, elle l'épouse et elle comprend à ce moment-là ce que c'était que le Purda et la Zenana. Elle sort du train, hop, elle est voilée, on ne la voit plus. C'est l'invisibilisation des femmes, en fait. Et elles deviennent invisibles, elles sont voilées, elles vivent entre elles. Les seuls hommes qu'elles voient sont des eunuques, sauf le mari. Alors, il se trouve que la Deuxième Guerre mondiale, va être son allié, si je puis dire, puisqu'à ce moment-là, ça va lui permettre de s'émanciper. Son mari va partir à la guerre, elle va entièrement, parce qu'elle avait pris des cours de comptabilité, de gestion à Londres aussi, revoir en profondeur la gestion des palais, et elle va créer, comme vous le disiez, cette première école. Parce qu'elle a compris qu'en fait, le seul outil possible pour émanciper les femmes, c'est l'éducation. Et cette école, pensait donc, en 1943 à la 24 ans, tous les hommes refusaient. Ils ne voulaient pas de femmes savantes, qui seraient plus intelligentes que les maris, les frères et les futurs maris, et les pères. Et elle soulève des montagnes, elle trouve le lieu, une directrice extraordinaire, elle engage elle-même tous les professeurs et elle crée cette école. Alors cette école a un destin extraordinaire, elle est considérée comme la meilleure école en Inde aujourd'hui, et toutes les femmes les plus brillantes, génération après génération, sont sorties de cette école. Elle a été un mentor absolu. Moi, quand j'étais en Inde et que je parlais d'elle, les femmes étaient toutes garde à vous, parce qu'il y avait un avant et un après. Et elle ne va pas en rester là, c'est-à-dire qu'elle voit à quel point, au fond, il y a le succès de l'école, ce qui expliquera aussi son entrée en politique. Parce que quand il y aura naturellement l'indépendance avec la partition, donc qui est un bain de sang dans les deux camps, et d'ailleurs Ayesha et Jai vont être admirables pour les musulmans, on ne touchera pas un cheveu des musulmans dans leur royaume. Et Gandhi est assassiné en 1948. Et là, elle va voir à quel point, tant qu'il était là, tout allait bien. Mais à partir de son assassinat, le parti du Congrès va être gangréné par la corruption. Et c'est pour ça qu'elle va entrer en politique, pour justement lutter contre cela. On lui demande d'ailleurs, la BBC, moi j'ai consulté toutes les archives, lui dit en 96, mais qu'aviez-vous à offrir? Elle dit, je n'ai jamais reçu un pot de vin, je n'ai jamais donné un pot de vin. Et cette force, cette honnêteté, une campagne propre, ça a été la source de son succès.
Et le héros d'Ayesha, dès son plus jeune âge, est Mahatma Gandhi.
Ah, absolument.
Est-ce lui qui va donner à la jeune femme l'envie de défendre les plus faibles, de faire preuve d'une grande empathie en se battant pour la condition des femmes, des paysans pauvres et plus tard des animaux?
Absolument. Par exemple, Mahatma Gandhi était célèbre pour défendre les intouchables. Et dans son école, elle abolit le système des intouchables, des castes, dès la création de l'école. Ça, c'est l'influence du Mahatma. Elle l'aura toujours en tête. Et effectivement, alors c'est intéressant le cas des animaux. Ça, c'est une cause qui me tient très à cœur et j'ai vraiment beaucoup travaillé le sujet pour le livre. Elle a d'abord été une grande Diane chasseresse. Elle tue sa première panthère à 12 ans. Les chasses royales, c'était quelque chose, je l'ai décrit. On part avec un orchestre à cordes de 35 musiciens, une armée de jardiniers pour fleurir les tentes des invités tous les jours. Enfin, les chasses des Maharajas, c'était vraiment un événement. Mais à la fin des années 60, elle est d'abord membre fondateur du WWF. Elle va comprendre la vulgarité de ces bains de sang et cette cruauté inutile. Et là, elle va devenir une avocate des animaux jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que 10 jours avant de mourir, elle lève encore des fonds pour sauver les éléphants d'Asie à Londres.
Donc elle se lance en politique au début des années 60.
Oui, elle aura 3 mandats, effectivement.
Avec passion, comme tout ce qu'elle entreprend. Et elle va faire de la prison.
Alors bien sûr, d'abord elle fait 3 mandats et il faut dire qu'elle est dans le livre Guinness des records parce qu'elle a été élue avec la plus grande majorité jamais enregistrée dans une démocratie. C'est ce que dirait d'ailleurs le président Kennedy lorsqu'il il la présente à ses sénateurs à la Maison Blanche. Et alors, il se trouve qu'en tant que sénatrice, elle est quelqu'un qui, députée, elle est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Disons qu'elle n'a pas la désapprobation muette. Et elle va s'opposer publiquement en plein Parlement au Pandit Nehru, donc, qui est le premier ministre d'Inde de 1947 à sa mort en 1964, le père d'Indira Gandhi, au moment de la guerre entre l'Inde et la Chine. Et elle va lui reprocher son incompétence et d'avoir muselé l'opinion. Enfin, ça, c'est... Et jamais personne, et surtout pas une femme, n'avait osé parler au Pandit Nehru de cette manière. Et c'est là où sa fille, qui va devenir premier ministre par la suite, Indira Gandhi, va lui vouer une haine implacable. Et quand Indira Gandhi va déclarer l'état d'urgence en 1975, parce qu'elle est tellement corrompue qu'elle était démise de ses fonctions, et l'état d'urgence lui permet d'emprisonner qui elle veut pendant un an sans procès. Et là, elle va arrêter Ayesha, qui va être emprisonnée dans des conditions mais vraiment immondes. Moi, j'ai fait une enquête, vraiment, c'est la prison de Tiar à New Delhi, et Indira Gandhi a veillé au moindre détail. Il n'y a pas d'eau courante, il y a des rats. Sa chambre donne sur un égo à ciel ouvert au pestilentiel. Elle doit quémander du papier toilette. C'est absolument effrayant les conditions. Et comme vous le disiez dans votre présentation, d'autres se seraient laissés abattre. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec des prostituées. Elle crée une école pour apprendre à lire et à écrire aux enfants des prostituées qui sont enfermés avec elle. Donc c'est vrai que cette force de caractère, même dans les pires situations, s'exprime. Ne jamais se plaindre, toujours surmonter les obstacles et toujours trouver des solutions. Et même là, j'avoue que le passage en prison, j'étais assez bluffé.
Et elle a de l'humour, puisqu'elle dira plus tard, elle avait passé 156 nuits dans sa cellule, et au fil des ans, quand on l'interrogeait sur ses mois les plus sombres de sa vie et sur le comportement injustifiable d'Indira Gandhi à son égard, la réponse d'Ayesha était toujours la même. « Je me serais sentie très insultée si elle ne m'avait pas considérée comme suffisamment importante pour m'envoyer en prison. » Et elle ajoutait en riant, « De toute ma vie, je n'ai jamais passé autant de temps dans un même endroit. »
Elle s'en sortait toujours par l'humour. Par exemple, j'ai interviewé longuement une réalisatrice belge féministe qui a fait un documentaire passionnant sur elle, Françoise Lévy. Et Françoise a essayé de l'interviewer justement sur comment a-t-elle pu accepter d'être la troisième épouse enfermée d'un Maharaja, alors que c'est une icône du féminisme aujourd'hui en Inde. Et elle n'a pas répondu. Elle avait 76 ans à ce moment-là. Elle lui a dit, « En Europe, les hommes ont des maîtresses. » En Inde, ils les rendent légitimes en les épousant. Donc elle s'en sortait toujours par l'humour, elle avait toujours une formule comme ça, et c'était sa force. Elle avait d'ailleurs un humour, je donne dans le livre des exemples assez noirs aussi, ça fait partie de sa personnalité. Et c'était un bouclier aussi, elle s'en sortait par l'humour.
Elle avait le culte de l'amitié, écrivez-vous. Qui furent ses meilleurs amis?
Alors ça, c'est une question très intéressante, qu'on ne me pose pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'enfance, elle est très cosmopolite. Elle est à l'aise dans le monde entier. Elle connaît tout le monde. Mais ses amis intimes m'ont dit qu'au fond, ces déracinements successifs dans différentes écoles font qu'elle est à l'aise avec tout le monde, mais pas très intime avec beaucoup de gens. Donc j'ai pu rencontrer des gens comme la romancière et essayiste Gita Mehta, par exemple, qui est extraordinaire, très 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 proche d'elle, ou John Stefanidis. Ça, ce sont des gens qui étaient ses grands amis pendant des décennies et qui ont eu accès au noyau dur, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'était aussi, elle avait le sens de la hiérarchie, naturellement. C'était aussi une reine et une Rajmata, c'est-à-dire reine-mère à la mort de son époux. Et donc, elle est toujours très entourée, toujours très bienveillante, toujours très curieuse des autres. Et c'est intergénérationnel. Elle était merveilleuse avec les jeunes gens. Mais en même temps, son quant à soi est assez secret.
Vous écrivez aussi qu'Ayesha aimait les personnages à vignettes. Qu'entendez-vous par personnages à vignettes?
C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des histoires à raconter. Par exemple, je le dis pour... Elle a été interviewée par James Ivory, le réalisateur James Ivory, pour un film et un livre merveilleux qui s'appelle « Autobiographie d'une princesse ». Et James Ivory, il dit la très épineuse Rajamata, parce qu'elle était difficile. Elle avait été tellement attaquée, et particulièrement par Indira Gandhi, qu'elle avait développé des mécanismes de défense. Et il s'est dit comment la faire interviewer. Il a eu l'idée de la faire interviewer par une femme qui s'appelle Lindy Dufferin, qui était une Anglaise très excentrique, dont le père, par exemple, avait été le protecteur du commandant Cousteau. Le père lui louait le bateau, la Calypso, pour 1 euro par an, et ça a permis à Cousteau de faire toutes ses expéditions et de faire ses films sous-marins. Et c'est Cousteau qui a appris à nager à cette jeune femme. Donc, c'est ça qu'aimait Ayesha. Elle aimait les histoires, toujours comme ça, qui étaient autour des personnages qui arrivaient à elle. Donc ça, c'est Lindy Dufferin, c'était un bon exemple.
Parlez-nous du couple qu'elle formait avec Jai.
Alors ça, c'est une histoire aussi très étonnante. C'est un couple qui a fait de Jaipur le laboratoire de l'Inde contemporaine. Ils étaient magnifiques, ils s'aimaient beaucoup, mais lui la trompait, mais frénétiquement. C'était un don juan patenté. Elle n'a aimé qu'un seul homme tout au long de sa vie, c'est lui, et elle en a beaucoup, beaucoup souffert. Donc c'était sa croix, en fait. C'était un couple très complexe, avec justement des nuages. Et elle a tenu bon, malgré tout. Mais je pense que ses proches m'ont dit que sa détresse était très grande. Elle a dû vraiment prendre sur elle en permanence. Et surtout, elle est devenue l'élément le plus solaire de ce couple. Quand elle est devenue députée, c'était l'Indienne la plus célèbre de sa génération, bien avant Indira Gandhi. Time Magazine couvrait la campagne. Enfin, et donc, lui, tombait dans l'ombre. Et alors, il a accepté d'être... ambassadeur d'Espagne, d'Inde en Espagne. Elle l'a suivi. Et pour garder ce couple, je ne sais pas si vous imaginez l'énergie qu'il faut dans les années 60 pour être 3 jours à New Delhi en session, 3 jours à Madrid, 3 jours à New Delhi, 3 jours à Madrid et garder le sourire et distraire son mari. Et être toujours... Elle avait une force de caractère qui est assez... c'est mauviette s'abstenir, je dirais.
L'alcool a fait beaucoup de ravages au sein de sa famille. Pourquoi ?
Alors l'alcool a tué son père à l'âge de 36 ans, ses 3 oncles, ses frères, son fils unique à l'âge de 47 ans, parce que ces princes indiens étaient élevés dans une atmosphère toxique. On leur faisait croire qu'ils étaient des demi-dieux, qu'ils auraient tous les pouvoirs, or ils n'en avaient pas. À l'époque anglaise, c'était les Anglais qui avaient le pouvoir politique et militaire, et à partir de l'indépendance, c'est le gouvernement socialiste indien, cette démocratie qui avait le pouvoir. Donc ils se sont trouvés dans une espèce d'état schizophrénique où ils étaient au fond très inutiles. C'est ça, ce sont des anachronismes enturbanés, comme je dis à un moment donné. Et ces hommes-là n'ont pas trouvé leur place. Voilà. Elle l'a trouvé. Elle a trouvé sa place en tant que femme, en tant que mentor pour de nouvelles générations de femmes. Mais les hommes ont défailli.
Et d'ailleurs, je rebondis sur son fils, puisqu'on peut penser, en lisant votre livre, Jean-Noël Liot, que son seul manquement fut envers son fils unique, Jagat. Elle ne fut peut-être pas assez disponible pour lui. Il aurait peut-être fallu, avec un couple aussi charismatique que formaient ses parents, lui accorder davantage d'attention, non ?
Vous avez tout à fait raison. C'est un couple charismatique, fusionnel, très sollicité, qui voyageait beaucoup. Alors Jagat, naturellement, sur le plan matériel, n'a manqué de rien. Les meilleures écoles, les biens. Mais ses parents étaient absents. Et quand il est mort, c'est ce que me disait Gita Mehta en particulier, sa grande amie, c'était sa tragédie. Et elle, les dernières années de sa vie ont été aussi comme ça, la culpabilité la hantait. Elle s'est dit, si j'avais été plus présente dès l'enfance, cet enfant n'aurait peut-être pas eu ce destin-là. Et c'est vrai qu'elle était... Mais en même temps, son mari était quelqu'un qui n'aurait pas permis à sa femme de s'occuper plus de son fils au détriment de lui-même. Ce sont des maris despotes. Hein. Il avait un charme comme ça, mais c'est un crotal, en fait. Ce sont des maris assez épouvantables.
Ah oui, lui, il était épouvantable.
Ah, moi, je ne l'aime pas du tout. Je trouve que ce mari, naturellement, est très comme ça conquérant. Il a fait de Jaipur un état extraordinaire, mais il se sert plus qu'il ne donne. Et il a un rapport au monde qui est un... Alors, il choisit la joie de vivre, comme ça. Il est toujours en pleine forme, on voyage, on chasse, on rencontre tout le monde, on accumule les lésions féminines. Mais au fond, la véritable générosité lui fait défaut, alors qu'elle l'a d'une manière si profonde. Mais l'amour, vous savez, ça, c'est les mystères. Je renonce, moi, à comprendre. Elle était si amoureuse de lui et d'ailleurs, elle est entrée dans une dépression à sa mort. Elle avait 51 ans quand il est mort. Elle n'a jamais eu un autre homme. Cette femme si belle, intelligente, originale, elle était très entourée, elle avait beaucoup d'amis, mais il a été l'amour de sa vie. Et ça, c'est quelque chose que c'est tellement profond et c'est quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. La raison ne peut pas expliquer cela. Moi, je me suis penché sur tout ça, même avec le recours de la psychanalyse. On essaie de comprendre, on a des outils à notre disposition pour essayer d'analyser un couple comme celui-là. Mais on n'y parvient pas.
Dites-nous, pour terminer ce premier entretien, ce qui fait, selon vous, que Gayatri Devi était une femme exceptionnelle.
Je pense que c'est l'incroyable valeur de ses contributions diverses et variées. Non seulement pour les femmes, pour les enfants, parce qu'elle a créé des écoles, la première école mixte à Jaipur. C'est la première fois que des filles et des garçons sont dans une école sous le même toit. Une école pour les enfants handicapés moteurs et physiques. Elle a créé le premier sanctuaire pour les animaux à Jaipur. On pense que les Indiens traitent très bien les animaux, c'est un enfer. Moi, je pleurais en écrivant certaines pages, tellement c'était pénible. Et donc, elle avait ce souci d'autrui qui, jusqu'à la fin, n'a cessé d'être son gouvernail. Et c'est ça qui, moi, me semble formidable. Qu'elle s'est renouvelée à toutes les époques de sa vie avec de nouveaux combats. Aujourd'hui, tout ça, c'est normal. Les femmes, les minorités, les animaux, les enfants. Mais pas en 43, pas en 53, pas dans les années 60. Elle est très visionnaire. Et cette femme qui était, comme vous l'avez dit, si belle, si guéfêtée, aurait pu être comme toutes les autres. C'est la seule Maharani de sa vie qui ait vécu comme ça et qui ait fait de la prison et qui ait payé le prix fort de ses engagements. Et c'est ça qui me fascine chez elle.
Merci Jean-Noël Liot.
Merci à vous.
Vous voulez bien nous lire un extrait, puis nous passerons au questionnaire secret d'écriture.
En créant son école, Ayesha avait déclaré la guerre aux valeurs conservatrices de l'Inde ancestrale. L'éducation et l'accomplissement des femmes étaient méprisés dans son pays en 1943. Donner à des élèves le moyen d'exprimer leur personnalité, les aider à passer d'une conversation ennuyée et trébuchante au monde des idées, quitter l'univers rétracté dans lequel elles avaient toujours vécu, pour entrer dans la complexité de l'Inde en train de devenir indépendante. Telles étaient ses priorités. Pour ses protégés, dont les richesses seraient désormais la connaissance et le savoir, pour ses premières élèves et pour toutes celles qui suivraient, par milliers, Ayesha fut un ange gardien tombé du ciel. Parmi les anciennes, beaucoup eurent des carrières brillantes dans la médecine, la diplomatie, la politique, la haute fonction publique ou l'éducation. La plus emblématique de toutes est peut-être Meera Kumar. Née en 1945, cette intouchable fut la première femme à devenir présidente du Parlement indien de 2009 à 2014. Ayesha Jaipur, ou l'idée platonicienne d'une Maharani, le vrai, le bien et le beau.
Et maintenant, nous allons passer au questionnaire secret d'écriture. Alors, Jean-Noël Liot, votre mot préféré ?
Alors, mon mot préféré est « maman ». C'est le mot que je prononcerai avec gratitude et bonheur jusqu'à la fin de mes jours.
Celui que vous détestez ?
Proctologue. Je vis dans la hantise du jour où mon médecin traitant me dira « Vous devez consulter un proctologue ».
Votre endroit préféré au monde ?
Mon endroit préféré au monde est Chatsworth, dans la campagne anglaise, dans les Midlands. Et c'est un endroit que je trouve très beau. C'est une maison qu'on appelle le Versailles anglais. La maison est merveilleuse à l'intérieur et à l'extérieur. Le parc est extraordinaire. La nature est extraordinaire. Tout est d'une beauté conservée. Il n'y a pas un poteau électrique à l'horizon. Et c'est une maison, pour moi, légendaire, parce que je suis très anglophile et c'est lié à la littérature, parce que Jane Austen parle de cette maison dans Orgueil et Préjugés et on dit qu'elle aurait inspiré le Pemberley, la demeure de Darcy. Et puis c'est la maison des Mitford, c'est-à-dire que mon amie qui vivait, Deborah Devonshire, était la sœur de Nancy Mitford. Et donc c'est la synthèse comme ça de deux courants littéraires.
Votre dernière lecture ?
Ma dernière lecture est une relecture. C'est un roman que j'aime beaucoup, que j'avais lu à l'âge de 20 ans, qui s'appelle Promenade dans la douce folie des gens tristes, qui a été publié en 1987 par Denis Rossano. Et c'est un roman qui me touche profondément et que je relis régulièrement.
Votre prochaine lecture.
Alors, ça va commencer de ce soir. C'est aussi un premier roman qui vient de sortir. C'est L'allègement des vernis de Paul Saint-Brie.
Quels sont vos moments privilégiés pour écrire ?
Le matin et l'après-midi. Je ne peux pas écrire après 19h, 19h30. Je relis. Je corrige, mais je ne suis pas l'écrivain de la nuit.
Pourquoi écrivez-vous ?
J'écris pour faire partager mes enthousiasmes, mes découvertes et mes passions à mes lecteurs.
Où écrivez-vous ?
J'écris chez moi, à la campagne, dans le Gers, avec mes chats et mes livres. Et voilà, j'ai trouvé mon cocon.
Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez ? Et si oui, laquelle ?
Non, je n'écoute pas de musique parce que je ne suis pas multitâche. J'aime trop la musique et donc je serais divisé. Je ne pourrais pas me concentrer sur l'écriture tout en écoutant de la musique. Donc c'est avant ou après.
Luttez-vous contre la page blanche ? Et si oui, comment ?
Alors ça, c'est la bénédiction de ma vie. Je n'ai jamais eu le moindre blocage et je n'ai pas à lutter contre la page blanche.
Contre quoi vous défendez-vous ?
Oh, mon idéal d'écriture ! C'est-à-dire qu'on est toujours, il ne faut pas se crisper. À un moment donné, il faut abandonner l'idée que le livre ne sera pas parfait, qu'il ne sera pas exhaustif et qu'on doit le rendre. Et ça, c'est toujours une bataille avec soi-même.
Merci beaucoup Jean-Noël Dio.
Merci infiniment Cécile.
Je rappelle le titre de votre livre, La princesse insoumise, aux éditions Guillaume Allary. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Pour découvrir les nouveaux coups de cœur de la rédaction et d'autres secrets d'écriture, rendez-vous en kiosque ou sur le site de femmesactuelles.fr. À très bientôt.